Et nous poursuivons dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25, la suite du passage qui était indiqué pour la semaine dernière, et qui va du verset 31 au verset 46. Matthieu 25, 31 à 46. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il siégera sur son trône royal. Tous les peuples de la terre seront assemblés devant lui, et il séparera les gens les uns des autres comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, et recevez en héritage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. » Ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront alors, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé et avons-nous donné à manger ? Ou assoiffé et avons-nous donné à boire ? Quand avons-nous vu étranger et avons-nous accueilli chez nous ? Ou nu et avons-nous habillé ? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus te voir ?» Le roi leur répondra, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, le roi dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils lui répondront alors, eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé ou assoiffé ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas secouru ?» Le roi leur répondra, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ses plus petits, vous ne l'avez pas fait à moi non plus. » Et ils subiront la peine éternelle, tandis que ceux qui ont fait la volonté de Dieu iront à la vie éternelle. Je ne sais pas si vous veniez ici en vous demandant dans quelle catégorie vous classez, dans les moutons ou dans les chèvres. Je vous laisse décider par vous-même de ce classement. Vous remarquez que dans ce temple, il y a deux allées, hein, il y a deux travées. Vous mettrez la pancarte où il faut, vous vous débrouillerez. Curieuse manière de terminer à cette fin d'évangile, un long enseignement sur le royaume des cieux, ou en tout cas de le terminer de cette manière. Voilà ce qu'on pourrait dire ou penser en relisant ces quelques lignes, mais après tout, si nous remontons un petit peu avant, Matthieu nous a déjà habitués à d'étranges paraboles. Du festin de noces à la parabole des talents, avec des personnages étranges, eux aussi, colériques, capricieux, arbitraires, qui chassent, excluent à cause d'un vêtement non conforme ou d'une incompétence coupable en matière d'administration des biens. Ici, c'est un défaut d'altruisme qui suffit à partager l'humanité en deux groupes, ceux qui vont à la vie éternelle, donc disons les chèvres, et ceux qui doivent au contraire affronter le châtiment éternel, les moutons, à moins que vous décidiez bien sûr que ce soit l'inverse. Avant d'entrer dans ce texte un peu expéditif, notons que nous pourrions nous demander raisonnablement si c'est une bonne chose qu'un texte comme celui-ci soit accessible à tous, qu'il soit entre toutes les mains, si vous voulez. Je sais bien que c'était et que c'est toujours le pari de la réforme protestante de mettre les sources à disposition de tout le monde. Mais, tout de même, voici une vision du monde assez simpliste où tout est partagé en deux groupes, les bons d'un côté, les réprouvés de l'autre. Dans le simplisme benêt et paresseux où nous barbotons déjà, où tout se dit sans retenue, surtout sans besoin de vérifier ce qui est clamé ici ou là, avons-nous vraiment besoin de cela? Si je pose la question, c'est parce que, face à un monde compliqué, qui demande beaucoup de temps et d'efforts avant d'oser prendre la parole et d'en dire quelque chose, c'est souvent la sottise et la platitude des slogans qui l'emportent sur les arguments longuement pesés, même si ces derniers sont toujours critiquables, bien entendu. On va à la facilité. On écoute, certes, mais pas trop longtemps. Et ce qui reste, à la fin, n'est ni le plus important, ni le mieux établi. Il suffit de voir certains débats sur des plateaux de chaînes d'information en continu, par exemple. Il faut une dizaine de secondes à peine pour déclamer une absurdité ou régurgiter un bobard ingurgité ailleurs. Mais pour celui ou celle qui cherche à s'approcher un peu, même modestement, de la vérité, il faut 10 bonnes minutes d'explications parfois hésitantes ou embrouillées, et l'intervention s'achève sans certitude d'avoir convaincu par des contre-arguments pourtant patiemment choisis. Dans ces cas-là, vous le savez bien, le public a bien plus de chances de garder en mémoire le bobard initial, asséné d'un ton docte et assorti de statistiques invérifiables. Les explications plus longues qui tentent, même maladroitement, de parler juste, n'intéressent pas grand monde. Ceci permet de montrer un phénomène fréquemment constaté: l'intelligence isole, mais la bêtise rassemble. Parce qu'une grande partie des humains préfèrent se faciliter la vie avec des réponses toutes faites, plutôt que de se la compliquer avec des questions plus ou moins complexes qui demandent du temps et du travail. On pourrait faire la même réflexion avec de nombreux textes de la Bible, c'est vrai, mais il est inutile d'en faire le catalogue ici et maintenant, ce serait trop long de toute façon. Soyons simplement conscients que, fréquemment, cette littérature problématique peut, à tout moment, être une lame à double tranchant. Lisons-la assidûment, mais restons prudents. Pour ce qui est du texte, proprement dit, ce qui choque le plus ici, c'est que la belle gratuité du salut à laquelle nous sommes habitués semble avoir sombré dans ce paysage binaire, avec ces deux files indiennes bien tracées, la perdition d'un côté, le salut de l'autre, avec comme critère de sélection un exemple flamboyant de salut par les œuvres. Mais faut-il se fier à la surface du texte? Faut-il prendre pour argent comptant ce petit refrain culpabilisant? Peut-être pas davantage qu'une lecture simplement économique de la parabole des talents, ou pas davantage qu'une lecture vestimentaire de la parabole du festin de noces. S'il faut placer l'altruisme au-dessus de tout, comment ne pas se sentir tôt ou tard, et même assez rapidement, en dessous de tout, s'il est vrai que nous ne sommes pas tous exemplaires? Pourquoi nous présenter l'altruisme comme un critère de salut alors que d'autres textes nous disent que ce même altruisme, ce don de soi dont sont les conséquences d'une liberté que personne ne peut nous prendre, c'est tout de même autre chose? Ou alors, mais c'est une hypothèse, hein, certaines paraboles ne sont là que pour présenter un Dieu tellement bizarre et tellement discutable qu'elles, elles ne sont là au fond que pour nous donner envie d'en inventer un autre, ou à défaut de nous souvenir que d'autres ont parlé du même Dieu, mais autrement, 10 pages avant ou 50 pages après, allez savoir. Au début de l'évangile de Matthieu, Jésus recommandait bien, vous vous en souvenez, dans le célèbre sermon sur la montagne et à d'autres endroits, qu'il faut aimer son prochain. Mais à aucun moment il ne laisse entendre qu'un manquement à ce commandement entraînerait la condamnation que notre texte suggère. À aucun moment. Cette posture de juge implacable colle assez mal avec l'idée d'un évangile qui rend libre. Si l'évangile de liberté, justement, qui est supposé nous faire vivre, échoue, peut-être comme une grosse baleine sur une plage, au point de se dégrader en une petite moraline indigeste, à quoi bon le message de la grâce qui libère et qui donne, on le sait bien, à la fois l'envie et la force de donner, puisque la grâce vient justement de cette certitude d'être libre et de ne plus avoir d'explication à donner à qui que ce soit. Si la liberté chrétienne à laquelle nous tenons tant devait finalement rejoindre la morale un peu dégoulinante des bons sentiments du charity business, par exemple, eh bien, ce n'était pas la peine de faire tout ce bazar. Nous l'avions déjà à portée de main, et puis ça n'a pas changé beaucoup, c'est toujours la même chose. La société du spectacle, le personnel politique, les philosophes de proximité qui prétendent nous apprendre à vivre mieux et qui en vivent bien, eux, tout le monde nous casse les pieds en nous incitant à en faire plus, sous peine d'être de mauvais citoyens ou des ennemis du genre humain. Même les footballeurs nous donnent des consignes de vote au lieu de continuer à courir en short après le ballon. C'est fou, non ? Qu'ils arrêtent de nous dire comment on fait pour être sauvés, puisque nous le sommes déjà. L'Évangile, ce n'est pas chercher un moyen de s'évader de sa cellule, de scier ses barreaux et d'escalader le mur d'enceinte. C'est essayer d'expliquer à tous ceux que nous rencontrons en sortant de là tout ce qu'il est possible de faire puisque nous sommes dehors. C'est plutôt ça, l'Évangile. Tout ce qui reste à vivre est la conséquence d'une libération déjà acquise. Alors oui, quelle curieuse manière, décidément, de laisser à ses disciples une parabole aussi bizarre, aussi étrangère à l'esprit de ce qui précède. Peut-être que ce partage rigoureux entre deux catégories étanches ne dit rien du tout du salut, du fait d'être sauvé. L'obsession du royaume et son identification avec un lieu et un temps tous les deux étrangers à notre monde nous influence peut-être encore au point d'y trouver je ne sais quelle action de Dieu. Et s'il n'était pas question de salut là-dedans ? Et si ce salut définitivement acquis n'avait pas besoin qu'on y revienne continuellement ? Et si notre obsession n'était pas celle de Matthieu, et encore moins celle de Jésus ? Si nous cessons de ramener toujours tout à nous-mêmes et que nous pensons en termes de message, de témoignage, voire d'incarnation de ces choses précieuses dans des gestes précis, cette parabole signifie tout à fait autre chose. Les idées de fraternité, de bonté, de partage ne disparaissent pas, on le sait, après avoir tranché pour soi la question de savoir si le ciel est vide ou habité. Vous connaissez tous de nombreuses personnes qui ne partagent pas forcément vos convictions, mais avec qui vous êtes pourtant en étroite communion autour de ces questions. Ce ne sont pas forcément les idées qui nous rassemblent, c'est plutôt la manière d'orienter sa vie. Ce que nous pouvons partager entre nous et avec d'autres, même si leurs convictions ou leur vision du monde diffèrent complètement, c'est d'agir de telle sorte que l'angoisse du lendemain et la peur de tout perdre disparaissent en nous et autour de nous, ou en tout cas s'affaiblissent, au point que la vie s'envisage à nouveau avec reconnaissance et appétit. Nous serons toujours dans le manquement face à ce programme. Nous ne serons jamais suffisants. Et alors ? Jésus ne s'adressait pas à ses disciples sans le savoir. Voilà pourquoi il n'était pas pour eux, et voilà pourquoi il n'est pas non plus pour nous aujourd'hui, le juge implacable que nous croyons voir dans ce texte. Dans ces lignes, il intervient quelque chose qui est comme un tournant de l'Évangile. La passion commence après ces lignes. Et au lieu de considérer que ce sont les dernières paroles qui achèvent un enseignement sur le royaume, nous devrions plutôt les envisager comme le prélude à ces événements qui en finiront définitivement avec toute idée d'un Dieu vindicatif qui tient absolument à ce qu'on le rembourse de je ne sais quelle dette. Le Dieu qui s'impose à la fin de la parabole n'exige aucun remboursement. Il offre, au contraire, l'espérance toujours possible d'une vie où notre obsession d'être sauvé est balayée, pour mieux faire place à la liberté d'être au bon endroit et au bon moment, avec des mots et des gestes qui redressent, consolent, raffermissent, comme on nous en donne l'exemple plusieurs fois dans ce texte. nous sommes invités, conviés à un processus de vie. Nous pouvons être disponibles. Et alors à ce moment-là, c'est la vie éternelle pour les chèvres. Mais nous pouvons être aussi momentanément absents, comme les moutons. Mais ça n'est que partie remise. Amen.